vers l'IoT et au-delà. Plongée au cœur de technologies qui devraient changer le monde.
Sous le mystérieux terme d'Internet des objets se cachent en réalité une multitude de technologies qui permettent de capter, de transmettre et de traiter des informations. À travers cette série de podcasts, Microsoft, en partenariat avec Uzbek Erika, se propose de lever le voile sur cet ensemble de nouvelles solutions qui ont, en réalité, déjà changé nos vies. Et pour en expliquer tout le potentiel, qui de mieux placé que celles et ceux qui développent au quotidien ce que nous appelons l'Internet des objets. Collaborateurs chez Microsoft, dirigeants d'entreprises partenaires et chercheurs spécialisés sur le sujet se succéderont donc au micro afin de réfléchir ensemble au futur que nous réserve l'IoT. La crise sanitaire sans précédent que le monde est en train de traverser n'a pas épargné les secteurs de l'industrie. Touchée de plein fouet, la production industrielle peine à retrouver son niveau passé, rendant plus que jamais indispensable la poursuite de la transformation numérique des entreprises du secteur. Mais alors, quel rôle joue et jouera demain l'IoT dans ce sinueux processus? Comment la convergence du monde physique et du monde digital, rendue possible par l'Internet des objets, permet aujourd'hui la mise en place de ce qu'on appelle la continuité numérique? En résumé, l'IoT va-t-il aider les entreprises industrielles à rebondir? Pour répondre à cette question, j'ai le plaisir d'accueillir dans le studio d'Uzbek Erika aujourd'hui Olivier Elterlin, PDG de PTC France, et Bertrand Félix, cofondateur de La Ruche Industrielle et responsable projet et partenariat. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Merci à vous deux de votre présence. Je vais commencer avec vous, Olivier Elterlin. Parlez-nous un peu de votre entreprise. L'IoT est donc au cœur de votre offre.
Oui, merci. PTC est un éditeur de logiciels américain basé à Boston, dont je dirige donc la filiale française, qui est en France depuis 30 ans. Des métiers qui sont originellement dans le monde de l'engineering, de la conception assistée par ordinateur et la gestion des données produits, avec un développement qu'on a poursuivi depuis 7 ans dans le monde de l'IoT et de la réalité augmentée. On l'a fait parce qu'il y a un lien aussi entre ces différentes briques de solutions qui nous permettent de renvoyer, on le verra après, des informations vers l'ingénieur concepteur à partir du produit dans son cycle de vie, à partir de son comportement aussi et de celui des machines qu'il produisent dans le cycle de fabrication. Nous sommes pour cela partenaires de Microsoft, qui héberge nos solutions sur le cloud Azure.
Alors, j'aimerais que vous nous donniez peut-être des exemples concrets, des cas d'usage sur vos activités en lien justement avec l'IoT.
Alors, on distingue deux types de cas d'usage, ce qu'on appelle les opérations connectées, qui concernent des opérations de production, et les produits connectés, qui concernent des produits finis, qui sont en vie. Et concernant les opérations de production, c'est là où on a eu le plus d'activité très vite. Il s'agit de connecter des machines de production, alors qui étaient déjà, en fait, on va rentrer dans la définition de l'IoT, équipées de capteurs, équipées d'électronique, mais d'être capable de récupérer leurs données et de créer des services pour les utilisateurs. C'est ça qui fait aujourd'hui une différence, des services qui s'appellent des applications et qui permettent par exemple de piloter la performance d'une chaîne de production, d'anticiper les pannes et de faire de la maintenance préventive, ou sur des sites industriels, de piloter la consommation d'énergie de bâtiments et là aussi de la monitorer pour l'améliorer.
Voilà. Beaucoup d'avantages en somme. Voilà. Alors Bertrand Félix, vous connaissez bien Olivier puisqu'à travers la ruche industrielle que vous avez donc cofondée, vous avez été amené à vous croiser et à collaborer à de nombreuses reprises. Pouvez-vous parler un peu de cette association et du lien qui vous unit à PTC?
Donc en effet, la ruche est une association qui a été créée en 2019. C'est un concept novateur qui est 100%, on va dire, en ligne avec son temps, surtout d'après ce qu'on voit en sortant de cette énième crise Covid, qui réunit une quinzaine d'entreprises assez complémentaires, secteurs différents. Donc on y retrouve de l'aérolique avec Aldès, de la mécanique Bosch, FIV, voilà, Grand Lyon, INSA, SNCF, Vika, Volvo, EFI Automotive, Groupe SEB, Montaber et Olot pour les plus récents. Et en effet, PTC fait partie intégrante de notre structure, puisque nous avons mené, comme vous l'avez dit, réussi des projets ensemble historiquement depuis ces trois dernières années, basés vraiment sur le concept de briques technologiques et d'apport d'expertise pour venir résoudre des cas d'usage industriels. Et nous, là, en ce moment, on a vraiment la chance, on a la chance d'avoir un collectif soudé qui pilote ensemble, hein, ce sont les industriels aux commandes, pour et par les industriels, qui pilote une structure et des livres à projet, hein, parce que la ruche est une usine à projet, hein, qui vise à s'appuyer sur des problématiques industrielles spécifiques, concrètes, hein, remontées par les industriels en toute intimité et confidentialité. On est vraiment de l'intérieur, hein, que l'on résout à plusieurs en menant des projets interindustriels en mutualisation de moyens. Et en fait, on a développé 4 axes donc qui sont assez en ligne finalement avec tout ce qu'on vit autour de nous. Hein. Donc une industrie performante, c'est ce qu'on cherche évidemment. Une industrie attractive à tous les sens du terme, hein, y compris pour les jeunes, pour le futur, durable et ancrée dans son écosystème. Et en effet, on fait plus que se croiser avec PTC à la ruche, on collabore ensemble, puisque nous, on ne cherche pas forcément que la preuve de concept, hein, le fameux POC, ou la preuve de valeur, on cherche réellement le déploiement en usine in fine, que les industriels et les partenaires technologiques mènent un travail à 4 mains pour venir mettre en place une industrie 4.0 qui relève vraiment les défis de notre temps.
L'un des points qui est revenu de manière beaucoup plus forte avec la crise qu'on vient de traverser, par exemple, c'est pourquoi se déplacer dans des usines pour quelqu'un qui pilote une unité industrielle et qui a une vingtaine de sites en Europe, mettons, simplement pour vérifier le bon fonctionnement de ces usines. Si on se déplace, c'est pour faire du management, c'est pour voir les personnes, c'est pour les guider dans un plan stratégique, pour faire le relevé des compteurs, entre guillemets, on peut automatiser ce genre de choses, éviter des déplacements. Donc là, éviter les déplacements, c'est devenu nécessaire, et ça devient une pratique demain de limiter les déplacements au strict nécessaire. C'est aussi anticiper la maintenance des produits. Je pense qu'on a vraiment fait un virage de l'obsolescence programmée vers l'allongement de la durée de vie des produits et de pouvoir avoir ces produits connectés et d'avoir un feedback en temps réel vers les professionnels au travers d'applications qui simplifient l'accès à l'information, encore une fois, qui font que ce n'est pas l'affaire d'un spécialiste d'un spécialiste de l'informatique sur la vie de ces produits. Ça permet d'anticiper les pannes et de gérer leur durée de vie, voilà, d'améliorer leur durée de vie.
Oui, alors je suis complètement d'accord avec Olivier et je dirais même que l'IoT est souvent, et on a pu le voir, hein, avec certaines discussions avec des experts, un débat en termes de définition. Moi, en tout cas, ce que je peux vous dire en vivant jour le jour, c'est que IoT ne rime pas essentiellement et toujours avec wireless, hein, donc sans fil. Je pense qu'on est vraiment sur la réconciliation entre l'IT et l'OT, hein, donc entre l'informatique et tout ce qui est automatisme, les équipes automatisme notamment qu'on retrouve en usine, qui peinaient à se parler, ou qui peinent d'ailleurs toujours à se parler. Et pour moi, l'Internet of Things, l'Internet des objets, c'est vraiment router et capter des données qu'on route à travers des chaînes de valeur, des chaînes de données ou des chaînes même de capteurs, protocoles et autres, vers du dashboarding, donc du tableau de bord, pour aller aider les opérateurs à faire du decision making et à prendre des décisions éclairées en fonction de ce qui se passe sur leur machine. Et pour moi, l'Internet of Things, c'est vraiment le fait d'apporter de la donnée sur Internet qu'on dispatche ensuite jusqu'à potentiellement des cas qu'on voit beaucoup en ce moment qui sont des analyses par les data analytics, hein, les analyses par IA ou par prédictif. Donc nous, c'est des choses qu'on voit beaucoup, on vous parlera après des projets qu'on a en commun, hein. Mais ce que je retiens, moi, dans tous les cas, c'est le travail aux interfaces, c'est-à-dire que cette chaîne continue d'information, elle nous permet de connecter les métiers entre eux. Et c'est encore une fois pour ça que nous, on reste persuadés, la conviction aujourd'hui, c'est que les entreprises sont challengées, hein, de toutes parts, hein, par l'industrie 4.0 qu'il est difficile d'appréhender, par la mutation des produits des services, de l'électrification des produits, par la customisation de masse. Il y a beaucoup d'injonctions, hein, de transformations qui pèsent sur cette industrie. Pour s'en sortir, bah, il faut une nouvelle approche. Et cette nouvelle approche, elle passe par la techno, mais aussi par les apprentissages et par l'humain au cœur, hein, donc le H4.0, si on voulait extrapoler un peu. Et ben, le I4.0 ou cette chaîne d'IoT nous permet de router les compétences et de router les métiers entre eux et qui communiquent et qui travaillent ensemble.
Bertrand, je reste avec vous pour un petit mot, on va être assez bref là-dessus, mais cette crise sanitaire, on sait qu'elle a fait très mal au secteur. Hein. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? En quelques mots, quelles sont les conséquences concrètes de tout ça?
Alors, elle a fait mal et on va avoir des résultats, malheureusement, qui vont arriver, mais elle a aussi apporté des bonnes choses. Nos patrons dans la ruche nous remontent notamment qu'elle a permis des collaborations qui n'ont pas eu lieu avant entre clients et fournisseurs, on va dire, au niveau de la supply chain. Elle a apporté une prise de conscience de mutation des métiers puisqu'elle a fortement mis la digitalisation en lumière et l'apport que ça pouvait apporter aux entreprises. Donc je dirais que si on regarde le verre à moitié plein, on a des fortes potentialités, notamment en France, pour utiliser notre ADN et pour appuyer sur l'accélérateur. Et on compte déjà, je pense, dans un paysage européen. Le terrain de jeu, c'est le monde. Je pense qu'on peut largement aider les entreprises françaises à reprendre la position et à faire venir les investisseurs. Hein. Donc, non, au contraire, on a, je pense, une sortie de crise qui va être très bonne pour peu qu'on active ce qu'on vient de dire juste avant. Hein.
Olivier, quelles solutions ont été apportées par PTC pour répondre à cette crise? À quel point la transformation numérique est importante pour arriver à rebondir?
Un des points majeurs que nous avons relevé, c'est le besoin de flexibilité industrielle versus un modèle avant cette crise, qui était plus des sites dont on définit la finalité pour les 20 ans à venir, avec une forte mondialisation de la production, là où les tâches industrielles peuvent être déléguées dans des pays à moindre coût. Aujourd'hui, on se pose la question de la relocalisation. C'est au-delà de ça de dire un site que j'ai créé en France, ou en Italie ou en Allemagne, il a telle finalité aujourd'hui et je veux être capable de piloter sa production et d'être capable de lui apporter une flexibilité sur le paramétrage de ses machines pour que dans un an, je décide de rajouter une ligne de production, je décide de changer la finalité d'un certain nombre de machines de production pour faire autre chose. C'est ce qu'on a vécu immédiatement pendant la crise avec des fabricants de systèmes de ventilation pour les malades du Covid qui ont réassigné un certain nombre de leurs sites qui faisaient tout à fait autre chose pour faire des respirateurs artificiels.
Et l'IoT dans tout ça, concrètement?
L'IoT permet, encore une fois, de piloter à distance le fait que les machines fonctionnent bien, oui. De relever les pannes. C'est aussi un élément important qui rentre en jeu aujourd'hui pour la sécurité des personnes dans les sites industriels. Donc, quand on fait des changements encore plus d'organisation de ce site, les choses ne peuvent pas être aussi sécurisées que si elles sont restées figées pendant 10 ans. Donc ça va permettre à tous les aspects de ce que peut être la sécurité industrielle de mesurer la stabilité et la qualité de ce site.
Alors lorsqu'on aborde tous ces sujets, un terme revient souvent, c'est la continuité numérique. Concrètement, qu'est-ce que c'est? Je vais commencer par vous, Bertrand.
Alors, pour nous, la continuité numérique, hein, pour moi, c'est la colonne vertébrale, c'est un sujet absolument pierre blanche de l'industrie 4.0. Encore une fois, hein, c'est la continuité, soit entre les différents métiers, et là je vais donner un exemple, entre par exemple le bureau d'études, puis le bureau des méthodes, puis la production quand il s'agit de, un, concevoir un produit, de le caractériser avant l'envoi en production, avant montage, hein, pour décrire les opérations de gamme ou de montage nécessaires en production. Et puis trois, opérer ce fameux montage. Donc on a trois métiers, trois finalités, et la donnée doit voyager entre ces différents secteurs. Elle doit être entière, elle doit être juste pour éviter les erreurs ensuite de non-qualité en fin de production. Elle doit être ajustable, hein, si le produit doit évoluer. On voit encore une fois que les variantes produits sont vastes et induisent beaucoup de tensions sur la supply chain. Donc tout ça, ça doit être géré de façon assez automatique, mais à la fois en gardant l'opérateur au centre pour qu'il puisse interpréter ces données. Ça, c'est un exemple. L'autre exemple de continuité numérique, qui est rigoureusement donc dans l'autre sens, hein, qui n'est pas vers du digital vers le physique, mais plutôt du physique vers le digital, c'est quand on opère une machine avec des capteurs et on cherche à en déduire sa santé, à détecter les déviations par rapport à son état sain, autrement dit, mieux l'opérer, mieux la superviser pour anticiper les pannes. Donc ça, les deux exemples que je vous citais sont au cœur de toutes les discussions industrielles qu'on peut avoir en ce moment, quels que soient les secteurs. Et on travaille avec ça, sur ce sujet largement avec PTC. On s'appuie sur des plateformes justement IoT qui ont la capacité à absorber de la donnée et à la router. et à le faire sur plusieurs cas d'usage. Voilà, donc ça c'est l'exemple que je voulais vous donner, mais c'est pas un vain mot pour les industriels. Aujourd'hui, ça fait partie des top priorités sur lesquelles ils travaillent.
On va rester là-dessus, sur les projets du numérique vers le physique, mais aussi du physique vers le numérique. J'aimerais, Olivier, que vous nous parliez du projet que vous avez en commun avec La Ruche Industrielle sur ces sujets.
Alors, en effet, notre partenariat de longue date avec La Ruche Industrielle a pour objectif d'orienter nos solutions vers les besoins des industriels. Donc de partir du métier, de la compréhension des besoins industriels. Et les solutions viennent après, on ne fait pas des projets pour la technologie. Donc on fait plusieurs projets en commun, dont un qui s'appelle la supervision connectée, oui, qui permet justement de lier l'information qui vient du monde physique de machines connectées vers des applications digitales et, dans le sens inverse, de remonter des informations digitales vers l'opérateur qui est sur le shop floor et qui a besoin de piloter ses outils de production.
Bertrand, vous voulez peut-être ajouter quelque chose sur ce projet que vous avez en commun? On voit que c'est un cercle vertueux, en quelque sorte.
Oui, parce qu'en fait, si on regarde comment la donnée en fait, se déplace d'un bout à l'autre de l'entreprise, et puis ensuite, en dehors de l'entreprise, vers les clients, notamment à travers la prévente, on se rend compte en effet qu'on fait un cercle vertueux, hein, qu'on démarre vers la machine jusqu'à une interprétation de données pour mieux opérer une ligne, ou à l'inverse, qu'on vient fournir à l'opérateur des instructions pour qu'il opère de meilleurs contrôles qualité, en réduisant le risque d'erreur et la charge cognitive. En effet, on est sur une boucle. Quand on fait nos projets, évidemment, nous, on cherche cette boucle, à tous les sens du terme. On peut aussi chercher à boucler pour récupérer les causes de panne qu'on retrouve chez les clients, pour que les bureaux d'études améliorent les produits. Donc, sans rentrer dans les détails trop techniques, cette boucle vertueuse de la donnée, elle est absolument vitale pour les industriels et les entreprises. Après, nous, sur un projet de continuité numérique, évidemment, on travaille sur chaque brique. Hein, donc, la machine, la typologie de capteurs, alors cette fois-ci, ben, ce sont des capteurs qui sont rapportés à la machine, n'existant pas sur la machine. Est-ce que ce sont des capteurs qui sont sur la machine, qu'on opère? Puis ensuite, il y a toute la chaîne, hein, automates, master IO-Link, passerelle, protocole, jusqu'au data hub, et ensuite en s'éloignant vers des logiques de supervision et tableau de bord et de prédictif, on se rend compte que chacune de ces briques, elle nécessite en fait du travail de compréhension, hein, d'exploration, mise en œuvre et de montée en compétences par les équipes industrielles avec l'aide de nos partenaires technologiques. En fait, on travaille vraiment en commun là avec PTC, et pas que, mais sur ces projets, on a une approche de co-développement.
Olivier, allez-y, oui.
Oui, ce que je voulais en synthèse parler de la continuité numérique sur quatre points, c'est en effet, comme tu le disais Bertrand, la continuité de la donnée au travers des différents départements de l'entreprise, là où on a créé par le passé beaucoup de silos de données, entre le PLM, le RP, le MES, etc. Deuxièmement, c'est y ajouter la connexion entre le monde physique et le monde digital, qui récupère de l'information qui n'existait pas auparavant dans le système d'information et qui l'envoie aussi vers des opérateurs qui n'étaient pas les cibles utilisateurs des systèmes d'information de gestion jusque-là. Troisièmement, c'est s'occuper de la qualité de la vie pour l'opérateur lui-même, c'est-à-dire on va créer des services, des applications qui donnent accès à la donnée en un seul écran, avec un certain nombre de services d'accès à des données qui n'existaient pas auparavant. Donc on va faire en sorte qu'il n'ait pas à s'arracher les cheveux en passant sur 10 écrans différents et en se reloguant pour avoir accès aux informations. Et le dernier point, c'est l'accès depuis n'importe où, et c'est là qu'on revient vers la solution de cloud, c'est-à-dire de pouvoir avoir ces données qui sont accessibles sur le cloud, et donc si par accident on se retrouve à la maison demain, on peut continuer à avoir accès à cette information-là.
C'est plutôt une bonne chose en fait, on ne sera jamais perdu, on aura toujours accès à l'information. Finalement, de belles opportunités.
Et ça, c'est un point absolument vital, puisque quand vous parlez de travailler de la maison, je ne peux pas m'empêcher de penser à tout ce qu'on a vécu ces derniers mois et qu'on vit encore un peu. Et si, et nous, dans les membres industriels qui font partie de La Ruche, on retrouve des entreprises qui mettent au point, avant installation de larges, de grandes installations industrielles, comme des convoyeurs, comme des machines complexes, je pense notamment à FIV et à Bosch Rexroth, qui ont un intérêt évident de simuler, c'est un point qu'on n'a pas abordé là encore, qui est de simuler le comportement d'un produit fini ou semi-fini, donc de le tester, de le simuler, avant même de l'implémenter en réel au milieu d'une chaîne de production, en robot par exemple, sur un terrain pour une machine ou encore sur une usine et un shop floor pour tout un élément de convoyage. Et ça, l'Internet of Things, il permet notamment d'aller capter qu'est-ce qui se passe sur le terrain, donc avec des capteurs réels, mais en plus de récupérer cette donnée pour en faire le fameux jumeau numérique hein, dont tout le monde parle, qui est quand même sujet à beaucoup d'interprétations justes ou fausses. En tous les cas, le jumeau numérique a plusieurs applications. L'une d'entre elles, c'est la simulation. Et la simulation, si, je ne vais pas encore rentrer dans les détails, mais ça a beaucoup, beaucoup d'avantages pour tester en remote une mise en production avant installation. Et là, on retrouve énormément de valeur ajoutée pour nos industriels.
Oui, et on en parlera justement dans un prochain podcast des jumeaux numériques. J'aimerais qu'on finisse notre podcast par une chose habituelle hein, chez Usbek Erika. On a envie de faire jouer votre imagination dans un futur proche, assez proche, dans 30 ans. Comment vous imaginez le futur de l'Internet des objets dans 30 ans, Olivier ?
Alors aujourd'hui, on parle beaucoup d'objets qui envoient des informations
oui.
pour qu'on les digère dans des applications. Premièrement, l'inverse existe aussi ou va exister, c'est-à-dire des objets qui vont recevoir des informations pour rentrer en action, des objets qui vont avoir de la mémoire et des objets qui vont garder la mémoire de leurs actions passées et gagner en autonomie. Donc être capable de réagir seul et d'améliorer leur façon de travailler. Tout ça, il faut le garder, comme on le fait avec la ruche, au service de l'humain, au service de ce dont on a besoin, éliminer des tâches inutiles, voire risquées pour l'homme, et faire agir l'objet seul là où il peut apporter quelque chose. Les études montrent aujourd'hui que cette révolution-là va créer un ratio de 1 à 2 en termes d'emploi par rapport à l'existant, parce qu'il va falloir maintenir, faire évoluer ces objets, toutes les méthodes de production dont on parlait pour que ça fonctionne. Là, on reste dans le monde industriel, hein, je ne parle pas du B2C. Et c'est une grande transformation à bien contrôler et à vivre ensemble à l'avenir. Voilà.
Bertrand, votre vision dans 30 ans de l'IoT ?
Alors moi je suis j'étais un fan de science-fiction un peu plus jeune, donc j'aime bien l'exercice de projection, je sais que c'est Usbek et Erika, vous avez ça en tête. Alors je reste persuadé et convaincu que la capacité de l'objet, hein, l'objet au sens large du terme qu'on a vu, pour moi l'objet industriel à capter de la donnée, c'est aussi pour pouvoir interagir avec l'humain. Moi, je suis encore, vous l'avez compris, je suis fan de l'interaction homme-machine, puisque je pense que l'humain restera au cœur, malgré une certaine accélération de la captation de données et toujours plus de données. Et pour moi, cette interaction homme-machine, elle peut passer par la réalité augmentée, notamment. Donc, un apport, on va dire, très facile, très visuel de la donnée pour que on en fasse le meilleur usage. Alors après, on sait qu'on vit une période de transition en ce moment, on voit qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se cherchent. Je pense qu'on va évoluer vers plus de sagesse, avec des rythmes peut-être moins fous, où on permettra à l'homme de capter de la donnée pour mieux l'interpréter. Et comme disait Olivier, je le rejoins, hein, je pense qu'on parle de 30 milliards d'objets connectés aujourd'hui. Il y a vraiment de quoi faire, et ces objets doivent être absolument au niveau cybersécu contrôlés, surtout quand on parle du contexte actuel. Donc il y a vraiment un ensemble de cybersécurité, d'usage et d'accélération qu'il va falloir bien doser dans le futur, et on espère que tout se passera bien. Mais il y aura la création de nouveaux métiers, donc on peut avoir le sourire.
On gardera le sourire, c'était le mot de la fin, et surtout, merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
Et à bientôt.
Merci.
Merci à tous de nous avoir suivis. Quel passionnant sujet que la transformation numérique de ces grandes entreprises industrielles. J'espère que ce podcast vous aura permis d'y voir plus clair sur le sujet. Pour le prochain épisode, nous parlerons agriculture et IoT en essayant de comprendre comment cette technologie peut changer la donne pour le secteur.